Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
Vous écoutez le service politique, le balado des reporters politiques de BFM TV. Je m'appelle Philippe Corbet et nous venons d'enregistrer un épisode avec Loïc Besson qui a suivi la campagne présidentielle de Marine Le Pen mais à qui nous avons demandé d'aller hier au meeting de Éric Zemmour qui rassemblait plusieurs milliers de personnes à Paris, environ 4000 personnes au Palais des Sports pour les 1 an de reconquête. Voilà, je voulais avoir son regard, cette première pour lui. Cette réunion publique d'Éric Zemmour. Nous enregistrerons cet épisode le lundi 5 décembre. Bonjour Loïc.
Bonjour Philippe.
Donc tu as passé ton dimanche au Palais des Sports, au Dôme de Paris, comme on appelle maintenant le Palais des Sports, qui se trouve pas très loin de BFM TV, où Éric Zemmour célébrait le premier anniversaire de Reconquête. Il y a 1 an exactement, il tenait cette réunion publique à Villepinte, qui avait relancé sa campagne électorale. Toi qui as suivi la campagne de Marine Le Pen, donc tu n'avais pas du tout fait de meeting d'Éric Zemmour, qu'est-ce qui t'a frappé dans ce rassemblement, cette réunion publique un dimanche après-midi?
La première chose, c'est sur la forme où tout était vraiment, c'était un show quoi. En tout cas, c'était comme ça que c'était mis en scène, préparé. Ça ressemblait à un enregistrement sur un plateau télé d'une émission de télécrochet, c'est-à-dire qu'il y a un chauffeur de salle pendant 1 heure avant le début du meeting en tant que tel, que les gens connaissent bien maintenant, c'est Olivier Hubeda.
Lui qui organise
le meeting. C'est le grand organisateur, le grand metteur en scène de toute la campagne d'Éric Zemmour et il fait le rôle de chauffeur de salle, à chauffer la salle. Dans la perspective de la diffusion de ce même meeting sur les réseaux sociaux et sur YouTube, parce qu'ils savent que c'est là qu'ils peuvent atteindre beaucoup plus de personnes, bien sûr, que les 4000 qui étaient présents, selon les organisateurs, au Dôme de Paris.
Et pendant toute la campagne électorale, c'est l'un de ceux qui avait beaucoup de monde, beaucoup de gens qui regardaient ces réunions publiques sur Internet, sur YouTube. Il y avait des chiffres assez impressionnants, comme ceux de Jean-Luc Mélenchon.
Et ils s'en vantent toujours, ils veulent cultiver ça. Et c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose d'un peu... un peu surprenant, ça ressemblait vraiment à un show, quoi. Au-delà du fond, à la forme, c'est-à-dire qu'il expliquait aux gens, un public qui était quand même plutôt âgé, des Parisiens, des Franciliens en tout cas, qui venaient finalement faire leur sortie dominicale ici, parce qu'ils avaient payé leur billet comme ils iraient voir un artiste, c'était 10 euros. Il leur disait, dans 5 minutes exactement, on va lancer la diffusion en direct sur YouTube, donc dans 5 minutes, quand je vous ferai signe, il faudra qu'à ce moment-là, vous applaudissez tous, vous agitiez vos drapeaux pour montrer qu'il y a de l'ambiance. Donc ça donnait vraiment un côté superficiel. On veut montrer qu'il y a de l'ambiance. On veut pas créer de la vraie ambiance. Tout est vraiment dans le paraître. Et c'est ça qui est quand même le plus surprenant pour moi qui n'avais pas suivi un meeting d'Éric Zemmour depuis très longtemps.
Mais une réunion publique, quel que soit le parti, c'est aussi ça. C'est aussi faire une démonstration de force sur la forme, sur le fond, le fond du discours, bien sûr, mais aussi sur la forme, qui est du monde, qui est des applaudissements, qui est des drapeaux.
Mais je connais.
Chaque parti essaie de faire la même chose.
Très peu de parti politique, de meeting politique où il y avait carrément un chauffeur de salle qui disait à ce moment-là, il va falloir applaudir. Que quelqu'un essaye bien sûr d'exciter les foules, créer de l'ambiance, c'est normal, mais de dire à mon go, il faudra faire ci, à mon go, il faudra faire ça.
C'est un peu le juste prix.
C'est un peu plus étonnant. C'est plus le juste prix, voilà.
D'accord. Donc ça, c'est sur la forme. Moi, j'ai vu quelques images de la captation, puisque c'est le candidat qui. L'équipe du candidat. D'ailleurs, je dis le candidat, mais en fait, il n'est plus candidat, mais l'équipe de Reconquête qui captait ce meeting et qui a transmis ces images aux chaînes de télévision. Les images sont assez impressionnantes. C'est-à-dire qu'on n'est plus en période de campagne. C'est l'hiver. Il y a un match des Bleus quelques heures plus tard.
Et il y a la grève SNCF.
Il y a la grève SNCF.
C'est d'ailleurs l'un de ses arguments dès le début de son discours. Merci d'être là. Il y en a peu qui peuvent faire ça, une prouesse. C'est vrai, 4000 personnes. Pour la campagne de Marine Le Pen, parce que c'est elle que j'ai suivie, il n'y avait pas ça. Et ça reste quelque chose quand même qui est assez propre à Éric Zemmour d'arriver à rameuter des foules comme ça.
Et celui qui a fait aussi beaucoup de monde dans ses meetings, c'était Jean-Luc Mélenchon pour la campagne présidentielle. Quand il a fait une réunion publique il y a quelques semaines à Clermont-Ferrand, il n'y avait pas 4000 personnes. Et donc c'est vrai que hors période de campagne, début décembre, juste avant Noël, en période de grève, alors qu'il y a un match des Bleus, faire 4000 personnes à Paris, Il n'y a pas d'autre parti qui a été en mesure de le faire pour l'instant.
Mais c'est vrai que j'ai parlé un peu avec les participants, enfin ces adhérents qui venaient donc au un an de Reconquête. Et c'est vrai que ce qu'on sent, c'est que beaucoup viennent parce que c'est Éric Zemmour. Et au-delà de l'aspect homme politique qu'il est désormais et depuis un moment maintenant, il y a le côté, on vient voir un peu une rockstar, quelqu'un de connu, quelqu'un qui sait parler, quelqu'un qui va faire le show. Et beaucoup venaient pour ça. Et c'est pour ça que personne dans ceux que j'ai interrogés était spécialement étonné, même qu'on fasse payer l'entrée d'un meeting 10 euros, parce que ça aussi, c'est quand même assez rare. Mais les gens savaient pourquoi ils venaient, ils en avaient pour leur argent, ils estimaient. Donc ils venaient vraiment là, presque pour voir un divertissement, en fait, de la même manière que Éric Zemmour avait beaucoup de monde quand il était à la télévision.
L'impression que j'ai, moi, et encore une fois, je n'ai pas vu le meeting, c'est toi qui y étais, mais l'impression que j'ai, c'est qu'il n'en reste pas grand-chose, qu'au fond, dans cet événement qu'a réussi à créer Éric Zemmour, puisqu'il y avait du monde, au fond, sa parole, je ne dirais pas être démonétisée, mais en tout cas, il n'a plus la capacité qu'il avait en 2021, au début 2022, à avoir des formules qui vraiment percent, qui vraiment s'imposent dans le débat public, en tout cas, qui sont largement reprises, qui font polémique et dont on parle, dont les autres s'emparent. Finalement, c'était assez fade. Et j'ai eu la même impression ce matin en l'écoutant sur RTL ou pendant, je sais pas, 12 minutes d'interview. Il n'a rien dit de très marquant, de très frappant. J'avais l'impression d'entendre comme un chanteur qui aurait eu des tubes et qui chanterait ses vieux tubes sans qu'il y ait vraiment de musique nouvelle ou de titres nouveaux. Et au fond, ça plaît une partie des gens qui ont la nostalgie de ce tube-là ou qui l'ont entendu et qui aiment ce chanteur. Mais néanmoins, il n'y a pas beaucoup de renouvellement.
Il y a trois raisons à ça, je pense. La première, elle est très technico-pratique, c'est-à-dire que ça a été un discours assez express, 40 minutes, parce qu'Éric Zemmour voulait à tout prix regarder le match de foot, l'équipe de France, qui commençait à 16h. Il avait dit dès le début. Donc déjà, ça
il avait fait avancer, d'ailleurs, je crois, son discours pour ne pas être en temps
de
match.
Il y a eu d'autres intervenants avant, ça a quand même pris du retard. D'accord. Et il a voulu se tenir à finir à 16h à tout prix. Donc là, c'était express, donc ça limite bien sûr les choses. La deuxième raison, c'est qu'il n'y a aucune volonté finalement d'élargir, de conquérir de nouveaux électorats, de nouveaux publics. C'était vraiment les 1 an de Reconquête. En réalité, les 1 an, c'est aujourd'hui, c'est ce lundi. D'accord. C'était la veille des 1 an. Pourquoi ? Parce que c'était le dernier jour d'adhésion. C'est-à-dire que toutes les adhésions, les compteurs sont remis à zéro aujourd'hui, en ce lundi 5 décembre. Et il y avait une volonté de mobiliser la base, donc pas spécialement de s'élargir, donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas de nouveauté. Et la troisième.
Donc c'est pour ça, entre guillemets, pour reprendre la métaphore, qu'il avait besoin de chanter ses vieux tubes,
ceux qui ont
qui
déjà
fonctionnent,
plu,
qui fonctionnent voilà, auprès
ceux qui
de son électorat.
Des titres sûrs. Voilà, c'était un meeting très nostalgique. Ça a commencé avec une vidéo, on se croyait un peu dans un mariage, le truc un peu ronflant que tout le monde appréhende lors d'une telle festivité où on refait le fil de la vie de quelqu'un. Là, c'était le fil des 1 an, de toutes ses interventions dans les médias. D'ailleurs, c'était un peu cocasse pour quelqu'un qui se présente toujours comme hors système, qui dit des choses qu'on ne peut pas dire dans les médias. Et en fait, sa vidéo était une compilation de ses best-of, de toutes les interventions médiatiques qu'il a pu avoir depuis 1 an et toutes les thématiques qu'il a imposées dans les médias. Bref, voilà pour l'aparté. La troisième raison de pourquoi finalement il n'y a rien de nouveau, c'est parce que quand on parle avec son entourage, on estime qu'il n'y a pas eu d'échec depuis 1 an. Malgré tous les échecs électoraux, que ce soit à la présidentielle, aux législatives et puis le reste. Mais on estime qu'il n'y a pas eu d'échec. Et donc, à partir de là, on estime qu'il n'y a pas de leçon à tirer, qu'il faut juste continuer sur la même voie,
pas de mea culpa.
Marteler les choses, pas de mea culpa. Au contraire, il a même dit ceux qui disent les choses qui dérangent, c'est ceux qui disent vrai, et donc c'est ceux qui gagnent à la fin en parlant de lui. Sous-entendu, je ne changerai pas de ligne. Voilà pourquoi il n'y avait pas de nouveauté, pas de nouveau souffle que certains, y compris dans son équipe, auraient pu espérer.
On va revenir sur la nécessité de refaire des adhésions, en tout cas de convaincre des militants de renouveler leurs cotisations parce qu'il y a un enjeu financier important pour Reconquête. Mais à propos de cette question, qu'est-ce qui reste au fond d'un grand meeting d'Éric Zemmour hors période électorale ? Je parlais avec quelqu'un ici à BFM TV ce matin à qui je montrais une vidéo de Guillaume Pelletier hier, qui est donc l'un des dirigeants de Reconquête, qui était à LR, qui autrefois était auprès de Philippe de Villiers, même plus longtemps au Front National de la Jeunesse, il y a plus de 20 ans maintenant.
Qui a pris la parole avant Éric Zemmour.
Et qui a pris la parole juste avant Éric Zemmour.
Président Reconquête.
Et moi, je trouve, encore une fois, je n'étais pas dans la salle, mais je trouve qu'en 30 secondes, Guillaume Pelletier était plus efficace que ne l'était Éric Zemmour pendant tout son discours, puisqu'il a fait une formule qui était écoutez-moi, je suis. Je reprends ces mots, même si j'en oublie peut-être certaines occurrences, mais moi, je suis blanc, je suis chrétien, je suis hétérosexuel.
Je suis un homme.
Je suis un homme. J'habite dans une zone rurale, je me chauffe au fioul et je roule au diesel. Et je n'ai pas du tout l'intention de m'excuser pour ça. très applaudi, notamment où il dit, au moment où il dit je ne suis pas, je suis hétérosexuel, mmh. et très applaudi quand il dit j'ai pas l'intention de m'excuser. Et moi j'ai trouvé qu'en 30 secondes, en termes de communication politique, je parle pas du fond de ce qu'il dit, mais c'était extrêmement efficace, c'est-à-dire qu'il avait une formule percutante où il y avait en fait toutes les obsessions, et quand je dis obsessions, toutes les thématiques qui mobilisent cet électorat-là, c'est-à-dire qu'à la fois. Les questions de genre, les questions de modèle entre guillemets patriarcal, en tout cas familial traditionnel, la chrétienté par rapport à l'islam, la ruralité par rapport aux villes, la voiture plutôt que les transports en commun, enfin tous ces sujets, et puis surtout finir par l'idée de je ne veux pas m'excuser, pas de repentance, pas de soumission à une pensée unique, etc. Moi, j'ai trouvé que c'était extrêmement percutant, extrêmement efficace. En 30 secondes, il en disait plus que Zemmour pendant 40 minutes de discours, ou même, il disait un truc plus fort que ce que Zemmour dit, par exemple, dans cette interview ce matin sur RTL. Mmh.
Alors, les trois vice-présidents de Reconquête ont pris la parole, donc avant, avec Zemmour, Nicolas Bay, Marion Maréchal et donc Guillaume Pelletier. Il faut savoir que chacun avait un temps imparti très, très limité. Je crois qu'en tout, c'était 4 minutes chacun, sous le regard d'Olivier Hubeda, qui leur faisait les gros yeux s'il dépassait. D'ailleurs, Marion Maréchal l'a dit au micro, je dois finir, parce qu'Olivier Hubeda me fait les gros yeux. Et donc, c'est vrai que chacun, à ce moment-là, essayait d'être percutant. Faut pas oublier aussi que, à Reconquête, il y a quand même une guerre des égos, une guerre des chefs, notamment en vue des européennes, où Guillaume Pelletier, même s'il n'est jamais cité par personne, se verrait bien lui-même tête de liste. Et donc,
il n'a pas été réélu.
Il n'a plus de mandat. Il n'est plus payé que salarié que par Reconquête aujourd'hui. Et pour reprendre sur le fond de sa phrase, c'est vrai que ça correspond aussi à l'air du temps, en tout cas dans ce parti que veut se projeter Reconquête. On pense bien sûr à Giorgia Meloni en Italie, parce que c'est elle qui avait eu cette phrase quelques jours après son élection, il y a quelques semaines maintenant. Je suis blanc, je suis chrétienne, je suis une femme et je suis italienne et je suis fière de l'être. Enfin, en gros, c'était ça le message. Et en fait, Guillaume Pelletier n'a fait qu'un copier-coller de ça, sauf qu'il n'est pas Giorgia Meloni, il n'a pas le même rang. Et puis, ça, copier quelqu'un, c'est jamais très chic. D'ailleurs, ça a fait rire. Raillé au RN, en tout cas, on me dit voilà les Mélonies commandées chez Wish, c'est comme ça qu'ils sont qualifiés autour de Marine Wish, Le Pen. C'est le site de produits chinois, pas chers, cheap, de contrefaçon. C'est l'expression.
Mais encore une fois, c'est pas pour défendre ce que dit Guillaume Pelletier sur le fond, mais ça résume bien ce qu'est Reconquête. C'est un parti qui mobilise et qui a mobilisé, qui espère encore mobiliser autour de ce qu'on appelle les guerres culturelles, c'est-à-dire des thèmes où au fond les questions blanc contre noir, chrétien contre musulman, homme contre femme, ruralité, enfin d'une certaine manière alimenter ce qui divise dans la société française. Et ces guerres culturelles ont été un ressort de mobilisation avant la campagne présidentielle, pendant la campagne présidentielle pour Éric Zemmour. Et je trouve que Guillaume Pelletier, au fond, c'est plus efficace que la litanie d'Éric Zemmour sur l'union des droites, qui quand même est un pur sujet de journalisme politique et pas vraiment un sujet mobilisateur. En tout cas, Guillaume Pelletier joue sur les angoisses ou les peurs. Et ça, je trouvais que c'était assez efficace.
Oui, mais d'ailleurs, il y est revenu. Alors, sur l'union des droites, il est revenu. On a senti quand même que les choses avaient un peu bougé. Dit, quand je parle de l'union des droites, en fait, ça peut être l'union de tous les Français, parce que tous les Français peuvent être de droite, qu'ils habitent dans les métropoles ou qu'ils habitent dans les campagnes. Il a même eu cette phrase, qu'ils aiment lire des livres ou qu'ils aiment les chats. Évidemment, c'était une allusion.
Grosse allusion à
Marine Le Pen. Et à une phrase qu'il avait déjà eue, d'ailleurs,
Il avait dit, il y a certains qui aiment les chats, et moi, j'aime les livres.
C'est voilà. Ça. Avec une sorte de mépris de classe, en tout cas un classement qui lui avait valu quelques polémiques d'ailleurs déjà. Mais il est aussi revenu sur cette guerre culturelle. Alors il parle maintenant d'hétérogénéité ethnique, qui est le nouveau mot pour parler de multiculturalisme en réalité, qui est même peut-être un peu plus dur, parce qu'à la limite une culture, une religion, c'est objectivement qualifiable. Une ethnie, à part être Michael Jackson et se faire une opération de dépigmentation, on peut rarement changer sa couleur de peau, et en tout cas c'est pas censé définir qui on est, mais il parle de ça. Il a dû décevoir, là je me suis fait la réflexion, ceux qui sont venus le voir en pensant venir voir un grand intellectuel, parce qu'il est quand même ce sophisme de dire voilà pourquoi notre société est de plus en plus violente. C'est qu'il a dit ce n'est pas que lié à l'immigration, mais enfin quand même c'est quand même surtout lié à l'immigration, en expliquant que ça soit en Seine-Saint-Denis par exemple, comme dans l'immigration générale en France, c'est pour une très très large majorité des hommes, et plus il y a d'hommes, plus il y a de confrontations, parce qu'il y a plus de testostérone, comme en Seine-Saint-Denis. Voilà en gros son développement. Ça a pris, dans la salle, ça a pris après, ça c'était à chaud dans l'ambiance, mais quand les choses sont posées, on peut quand même un peu s'interroger sur ce type de raisonnement. Et puis il a reparlé du combat millénaire entre chrétiens et musulmans, donc toujours dans cette perspective d'affrontement finalement, et c'est son fond de commerce. En fait, c'est son fond de commerce, mais il est resté là-dessus parce que derrière, il y a du commerce à proprement parler d'ailleurs.
Bon, tu disais, selon eux, en tout cas, quand on parle avec les proches d'Éric Zemmour, ils ne considèrent pas du tout que l'année 2022 était une année d'échec, puisqu'ils ont réussi à créer un parti que, même s'ils n'étaient pas qualifiés au second tour...
Ils parlent du combat des idées, maintenant, le combat des actions, avec les polémiques qu'ils lancent sur les réseaux
sociaux. Idées, actions et...
Élections.
Élections, c'est ça. Mais bon, il a quand même réussi à faire 7% en créant un parti de zéro, donc il a quand même... réussi quelque chose, en tout cas, ça n'est pas tout à fait insignifiant ce qu'il a réussi à accomplir pendant la campagne électorale, mais il n'a pas eu d'élu à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'ils font, en fait ? Qu'est-ce que l'équipe rapprochée d'Éric Zemmour fait au quotidien, puisqu'ils ne peuvent pas être là où ça se passe, c'est-à-dire l'Assemblée sans majorité absolue, et on voit bien à quel point Marine Le Pen et ses 89 députés ont réussi à peser dans l'Assemblée nationale et en tirer les bénéfices dans l'opinion, puisque... elle semble, selon les sondages de popularité, la principale bénéficiaire de cette situation politique issue des législatives. Comment est-ce qu'ils occupent leur journée ? Comment ils se préparent ? Et ce qu'ils ont en tête, c'est d'abord les européennes, c'est ça ?
Les européennes, même si pour l'instant c'est un sujet tabou pour savoir qui sera tête de liste. En gros, ça joue entre Éric Zemmour et Marion Maréchal. Marion Maréchal qui est déjà en campagne, qui fait beaucoup de déplacements sur le terrain, qui s'y verrait bien, qui reste quand même
qui n'a pas de mandat,
et très populaire, qui n'a pas de mandat non plus, qui est seulement salarié donc, du parti Reconquête en tant que vice-présidente. Et puis il y a bien sûr Éric Zemmour qu'il faudrait bien occuper aussi. Ça serait compliqué si Marion Maréchal était tête de liste. Forcément, il serait éclipsé et ça remettrait en cause aussi potentiellement la suite pour la prochaine élection présidentielle. Le choix, il sera fait en fonction de qui sont les concurrents. En réalité, ce qu'on dit...
Jordan Bardella.
Oui, mais il regarde aussi du côté de la majorité. Est-ce que ça sera un ministre, par exemple, qui partira en tête de liste pour mener la liste de Renaissance ? Dans ce cas-là, ils estiment que c'est quelqu'un de premier rang qui serait potentiellement le candidat de la majorité en 2027, parce que là aussi, il se cherche un chef.
C'est Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, pour aller aux européennes.
Typiquement, si c'était un ministre comme ça... Éric Zemmour pourrait y aller parce que ça présagerait le futur combat
de
2027.
Plus probable.
C'est pas du tout le plus probable. Peut-être que ceux qui me disent ça espèrent qu'Éric Zemmour soit lui la tête de liste, parce que c'est vrai qu'il y a quand même un combat là aussi, une sorte de pas de coup d'État en interne, mais bon, ça reste de la politique. Il y a plusieurs têtes, il peut y en avoir.
On va dire les choses clairement, puisque tu as cité les noms tout à l'heure, Guillaume Pelletier, Nicolas Bay, Sarah Gnafo, Marion Maréchal, Éric Zemmour. On connaît le tandem Éric Zemmour-Sarah Gnafo, puisque Éric Zemmour lui-même en a parlé, il a remercié pendant la campagne électorale du rôle qu'elle avait joué. Il y a en revanche une sorte de rivalité entre Marion Maréchal, d'un côté, qui était une prise de guerre pendant la campagne, et Guillaume Pelletier, Nicolas Bay, pour l'avenir du parti.
Oui.
Guillaume Pelletier venant de LR, Nicolas Bay venant du RN.
Voilà, qui sont tous un peu plus ou moins la même génération, qui pour le coup ont les mêmes idées, et qui, il y a cette guerre d'ego de qui sera le plus populaire. Pour l'instant, ça ne fait pas de doute, c'est Marion Maréchal, mais oui, Guillaume Pelletier se dirait, si ce n'est pas le vrai chef, si ce n'est pas Éric Zemmour, en fait, pourquoi ça serait Marion Maréchal, au nom de quelle légitimité ? On a les mêmes postes, on a les mêmes rôles, on est vice-président, il n'y a pas de raison que ce soit elle qui soit imposée plutôt que moi, par exemple.
Il y a une histoire de jeu de chaise musicale, puisqu'il est improbable, ou en tout cas, ce n'est pas du tout le scénario le plus probable, que, en tout cas, sur le papier, Reconquête va avoir du mal à faire élire 5 députés européens. Puisqu'il y a un nombre de députés.
D'où l'intérêt d'être le plus haut possible dans la liste. Si Reconquête avait des élus, c'est comme ça que ça marche, par ordre de liste. Donc forcément, oui, il y a un enjeu, ne serait-ce que financier, pour ceux qui ont besoin de vivre. Aujourd'hui, Nicolas Bay reste eurodéputé, bien qu'il ne soit plus au RN, il finit son mandat. Mais bien sûr qu'il aimerait aussi être renouvelé. Et lui, sa légitimité, c'est de dire je suis député européen déjà, donc je suis peut-être le plus légitime pour...
Plus que Guillaume Pelletier, qui était député à l'Assemblée nationale, LR, et qui a quitté LR et n'a pas été réélu, puisqu'il s'est présenté, il n'a pas été réélu. Et on l'a évoqué, tous ces gens-là sont payés par Reconquête,
salariés de Reconquête,
d'où un énorme enjeu pour faire la carte, en tout cas qu'une partie des adhérents, qui étaient nombreux l'année dernière lors de sa campagne électorale, renouvellent leurs cotisations.
Un chiffre qui est difficile à vérifier, mais ce que dit le parti, c'est qu'ils sont 130 000, il y a eu 130 000 adhérents hier encore, donc pour le dernier jour de cotisation.
Parce qu'en fait, jusqu'à hier, ils étaient tous adhérents, 130 000.
L'adhésion dure un an, donc le parti avait été lancé il y a un an.
Tous avaient payé.
Oui.
D'accord.
L'objectif, c'est de... dans leurs rêves les plus fous, ils aimeraient au moins atteindre les 50% de réadhésion, ce qui serait plutôt un bon chiffre en dehors de toute année électorale. Pour l'instant, ils annoncent avoir plus de 20 000 adhésions déjà de réadhésion.
Pour l'année 2023.
L'an 2 de reconquête. Voilà. Et bien sûr, tout ça dépend des adhésions. Il n'y a pas de financement public dès lors qu'ils sont basés sur les élections législatives.
Ils en ont, puisque le financement public, c'est à la fois lié au nombre de députés qu'on obtient, donc de ce point de vue-là, ils n'en ont pas, mais aussi du nombre de voix obtenues aux législatives. Donc ça, ils ont un financement public.
Oui, mais c'est pas le plus gros, à la limite, que ce que rapporte aussi chaque député qui cotise par année, crois, un parti.
Chaque député doit flécher le financement public vers le parti auquel il se réfère.
Bien sûr, il y a des financements, mais enfin, il reste minime dans un parti qui avait beaucoup d'ambition, qui dépense énormément d'argent pour faire des grosses représentations comme hier, par exemple.
Ça coûte plusieurs centaines de milliers d'euros.
Difficile d'avoir les chiffres exacts, mais oui, disons que bien que l'entrée soit 10 euros et qu'il y ait 4000 personnes annoncées, ça ne fait jamais que 40 000 euros. Ça ne couvre même pas la moitié d'un tel meeting, ça c'est certain, pour que les gens comprennent. Donc oui, il y a un enjeu financier, bien sûr, puis ne serait-ce que pour payer, encore une fois, ceux qui en sont salariés de ce parti.
Bon, très bien. Quelque chose à ajouter qu'on n'aurait pas évoqué ?
Oui, on n'a pas parlé musique. Tu sais que j'y prête une attention toute particulière.
Non, je voulais... Non, parce qu'il faut dire, tu es très triste que la Star Academy soit terminée.
Oui, ça devrait revenir l'année prochaine.
tu vas être candidat l'année prochaine ?
À la Star Academy ?
Ouais.
Bien sûr que non. Je ferai des podcasts peut-être au mieux, mais dans un micro BFM TV.
Non, plus sérieusement, c'était quoi la musique ?
Non, j'étais étonné, mais encore une fois, parce que bon, il y a eu une chanson française qui a été diffusée avant le début du discours d'Éric Zemmour. Ouais. C'était l'envie d'avoir envie.
Pour les 5 ans de la mort de
Bien Johnny. Sûr. Et j'en parle parce que pour avoir vécu ça en coulisses, je sais à quel point le choix des chansons ne sont jamais anodins dans ce genre de moment. Mais je me suis quand même fait la réflexion, parce que moi, du Johnny, j'en ai beaucoup entendu dans la campagne de Marine Le Pen, tu l'imagines, tu le sais. Je me suis quand même fait la réflexion pour quelqu'un qui a eu parfois des propos assez maladroits qui ont pu être interprétés comme une forme de dédain, de mépris vis-à-vis de ce qu'il appelait les classes populaires, oui. Les chômeurs, les ouvriers, ces ghettos-là. Finalement, de diffuser les mêmes chansons que ferait Marine Le Pen pendant toute sa campagne, d'une Johnny Hallyday avec les connotations qui vont avec. Voilà, je trouvais ça un peu cocasse.
Merci Loïc.
Merci Philippe.
Merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve dans quelques jours. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes de téléchargement, Apple Podcast, Spotify, Deezer. Et tous les épisodes sont évidemment disponibles sur l'application et le site BFM TV.